un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Le président turc relaie l'appel au boycott des produits français. Recep Tayyip Erdogan accuse Emmanuel Macron de diriger une campagne de haine contre les musulmans. Nous irons à Istanbul dans un instant. Peut-on dialoguer avec les djihadistes pour la France? C'est clairement non. Jean-Yves Le Drian l'a répété aujourd'hui à Bamako. Mais le gouvernement malien de transition n'est pas sur la même ligne, nous l'entendrons. Y a-t-il une autre solution que le reconfinement pour freiner la deuxième vague de Covid-19 en France? Le couvre-feu imposé à 46 millions de Français n'a pour l'instant pas suffi. Il semble de plus en plus probable que de nouvelles restrictions seront bientôt annoncées. Un conseil restreint de défense se réunira demain matin. Des élus à la suite du président de la région Grand Est réclament une concertation pour adapter les mesures sanitaires à venir aux situations locales. Explication de Stéphane Robert. L'ambassadeur de France au Pakistan a été convoqué par Islamabad. On sait que le blasphème est un sujet incendiaire dans le pays. Et les paroles d'Emmanuel Macron rappelant qu'en France, on a toute liberté de caricaturer Mahomet ne sont pas passées. Mais c'est de Turquie que viennent aujourd'hui les critiques les plus virulentes à l'égard de la France. Recep Tayyip Erdogan, qui avait mis en question ce week-end la santé mentale de son homologue français, appelle désormais ses citoyens à boycotter les produits français à Nandlower.
C'est un appel clair, c'est même presque un ordre que Recep Tayyip Erdogan a lancé dans un discours retransmis en direct à la télévision, au terme d'une longue tirade contre ce qu'il considère comme une montée du racisme et de l'islamophobie en France et en Europe.
Nous constatons que la haine de l'islam et des musulmans se répand dans les sociétés européennes comme la peste. Les commerces, les maisons, les lieux de prière, les écoles appartenant à des musulmans y subissent quasiment chaque jour des attaques de groupes racistes et fascistes.
Irkçıların ve faşist grupların saldırısına maruz kalıyor. Nasıl ki
Tout comme en France, certains disent n'achetez pas les marques turques.
Mal satın alınmayın diyorsa ben de şimdi buradan milletime
Je m'adresse ici à ma nation. Surtout ne prêtez pas attention aux marques françaises. Surtout ne les achetez pas.
İltifat etmeyin. Bunları satın almayın.
Le président turc a ensuite lancé un second appel, cette fois-ci aux leaders mondiaux, à protéger tous ensemble, je le cite, les musulmans de France. Comme il le fait depuis des années, Recep Tayyip Erdogan utilise les tensions actuelles pour se poser en défenseur des minorités musulmanes dans le monde. Mais il ne cherche pas forcément à coaliser derrière la Turquie et contre la France les autres États à majorité musulmane. Il sait que cela serait impossible car les relations d'Ankara sont en réalité mauvaises avec la plupart des pays du Golfe et du Moyen-Orient. Le président turc veut surtout marquer les esprits de ses électeurs et des musulmans à travers le monde.
À Nandlower, à Istanbul, l'appel au boycott des produits français lancé par le président turc n'est pas anodin compte tenu de l'implantation des entreprises françaises dans le pays. Mais les deux pays sont liés sur le plan économique et un boycott pénaliserait aussi la Turquie, Bertrand Galichet.
450 entreprises françaises en Turquie travaillent dans tous les grands secteurs d'activité industrielle et commerciale. Renault, implanté depuis un demi-siècle avec son partenaire Oyak à Bursa, au sud d'Istanbul, y dispose de l'un de ses plus grands centres de production, d'une capacité de 378 000 voitures et 920 000 moteurs par an. La France est également présente dans la banque, BNP Paribas entre autres, et les infrastructures aériennes avec Aéroport de Paris. Au cœur des échanges économiques entre les deux pays figurent aussi la pharmacie et le textile. Depuis une dizaine d'années, le commerce bilatéral a connu une croissance régulière pour atteindre l'an dernier 14,6 milliards d'euros. Mais en valeur relative, les exportations françaises vers la Turquie diminuent progressivement par rapport aux importations de produits turcs en France. Cette balance commerciale déficitaire pour Paris relativise la portée du boycott des produits français auquel a appelé Recep Tayyip Erdogan.
Et les pays européens apportent leur soutien à la France. La chancelière allemande Angela Merkel qualifie de diffamatoire et inacceptable les déclarations du président turc. Le premier ministre néerlandais adopte le même ton. Les Pays-Bas, déclarent-ils, défendent résolument aux côtés de la France les valeurs communes de l'Union européenne pour la liberté d'expression et contre l'extrémisme et le radicalisme. Ajoutons que le CFCM appelle les musulmans de l'Hexagone à défendre l'intérêt de la France. La France est un grand pays, les citoyens musulmans ne sont pas persécutés, ils construisent librement leurs mosquées et pratiquent librement leur culte, déclare le président du Conseil français du culte musulman. Toutes les campagnes de dénigrement de la France sont contre-productives et créent de la division, ajoute Mohamed Moussaoui. La France persiste et signe. On ne peut pas dialoguer avec les djihadistes. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, l'a répété aujourd'hui à Bamako. Mais le gouvernement malien de transition n'est pas sur la même position qu'Aoro Magasa.
Oui, vous l'avez rappelé, c'était la première fois depuis le coup d'État du 18 août qu'un officiel français se rend au Mali. Alors l'objectif était clairement d'apporter un message, celui de l'engagement de la France aux côtés des nouvelles autorités maliennes. Plusieurs conventions ont été signées d'un montant total de 140 millions d'euros, mais vous l'avez rappelé en titre, effectivement, sur la question du dialogue avec les terroristes, il y a des divergences pour la France qui combat les groupes terroristes au nord du Mali avec l'opération Barkhane. La réponse est non, elle est catégorique. Jean-Yves Le Drian, à la conférence de presse à laquelle j'ai assisté, a clairement dit que ce sont les accords qui font la paix et les groupes terroristes n'ont pas signé ces accords de paix. Les choses sont simples, le refus est catégorique, comme je vous le répétais. Et sinon, pour le Mali et les populations qui paient un lourd tribut avec plus de 8 ans de guerre, des centaines, voire des milliers de morts et des déplacés, il faut s'avancer vers un dialogue, notamment avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda. Le premier ministre malien Mokhtar Ouane l'a rappelé, c'est important de neutraliser des groupes terroristes, mais il est tout aussi et sinon plus important de secourir et sécuriser les populations. Alors c'est, entre guillemets, les conclusions du dialogue national inclusif qui date de décembre 2019 et que les Maliens ont pris en compte et ont décidé autour de la table lors de ces larges concertations qui ont lieu l'an dernier.
Merci Kaoru Magasa en direct de Bamako. Au procès des attentats de janvier 2015, la Cour d'assises spéciale de Paris interroge aujourd'hui et demain Ali Rizapola, l'accusé sur lequel pèsent les charges les plus lourdes. Jugé pour complicité de crimes terroristes, il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Mais si l'accusé veut bien reconnaître qu'il est un bandit, il jure ne pas avoir de sang sur les mains. Il déclarait ce matin « Vous voulez un coupable, mais ça ne va pas être moi ». Et cet après-midi, Florence Sturm, sa mère et son frère sont venus à sa rescousse.
Mon frère, il est pas teubé. Il s'est converti, il vendait de la drogue, mais pas des armes. Moi, je sais bien que ce n'est pas lui. À la barre, le jeune frère d'Ali Rizapolat le défend, bec et ongles, 28 ans, regard noir, il apparaît sur la défensive, à la limite de l'agressivité, ce qui lui vaut plusieurs recadrages de la part du président. Avec aussi une certaine défiance de la justice, avant que la réponse ne soit donnée, je sais qu'il va être reconnu coupable. Leur mère, elle aussi est convaincue de son innocence, parce qu'il me regarde droit dans les yeux en me disant « Maman, j'ai rien fait ». Les mots d'une femme venue de Turquie qui a élevé presque seule sa fille et ses deux fils. J'ai travaillé, appris à parler français, un peu à lire et à écrire. Mes enfants, c'est ma vie, poursuit-elle. Elle jette en permanence des regards à son fils, assis dans le box des accusés, silencieux après ses diatribes enflammées de la matinée. Elle se rappelle des visites d'Amélie Koulibaly. Je soupçonnais qu'il avait mis mon fils dans la drogue. Il avait des yeux, elle mime avec ses mains, qui tournaient tout le temps. Elle est kurde, à Lévis, pas trop d'accord pour que son fils devienne musulman. Moi, je crois au bon Dieu, précise-t-elle, mais pas aux religions. Il faisait ses prières, il me disait « lis le Coran », moi, je ne voulais pas. Mais elle réfute catégoriquement les insultes de perverse ou mécréante qu'Ali Rizapolat aurait pu prononcer et qui apparaissent dans une écoute téléphonique. À l'enquêtrice qu'il avait évoquée à la barre, l'accusé furieux avait lancé « tu vas le payer ».
Florence Thurm, dont les chroniques judiciaires sont également écoutables sur franceculture.fr. Emmanuel Macron réunira demain matin un conseil de défense consacré au Covid-19. En fin de journée, Jean Castex recevra les forces politiques, puis les partenaires sociaux à Matignon. Et mercredi matin, nouveau conseil de défense consacré à l'épidémie. Les rumeurs de reconfinement se font de plus en plus fortes. Ce qui est sûr, c'est que la seconde vague grossit. Le plan blanc a été déclenché dans la région Grand Est. Bonsoir, Tara Schlegel.
Bonsoir.
Il y a pourtant eu l'appel au respect des gestes barrières, les campagnes de tests et de traçage, le couvre-feu imposé actuellement à 46 millions de Français. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Tara ?
L'un des objectifs du ministère de la Santé, sur les traces de nos voisins allemands, qui avaient bien géré la première vague, a été d'encourager les tests. La France a mis du temps, mais elle affiche aujourd'hui plus d'1,6 million personnes testées chaque semaine. Or, conséquence de ce succès, les délais pour les résultats s'allongent. Le gouvernement, qui avait prôné d'abord la gratuité des tests sans ordonnance, est un peu revenu en arrière en tentant de prioriser certains malades. Mais le mouvement s'amorce lentement. Il y a encore beaucoup de personnes asymptomatiques qui se font tester, un peu par sécurité ou par confort. Conséquence, pendant les 2, 3, 6 jours où on attend son résultat, eh bien on a le temps, évidemment, de contaminer son entourage. L'autre écueil, c'est le traçage. Deuxième pilier de la stratégie, traçage des cas contacts, l'assurance maladie, les agences régionales de santé, le pilote. Mais là encore, il faudrait que les agents aient le temps de discuter longuement avec chaque malade pour lui expliquer comment s'isoler avant même d'avoir réalisé son test. Petit exemple personnel, Aurélie, qui ne vaut forcément que ce qu'il vaut, mon mon fils lycéen est dans une classe où une camarade a été testée positive. Et pourtant, il n'a pas été contacté, il n'a pas été non plus considéré comme un cas contact parce que cette jeune fille n'avait pas mentionné son nom parmi les élèves qu'elle avait vus alors qu'ils se connaissent très bien. Il est donc passé entre les mailles du filet. Troisième pilier de la stratégie, l'isolement. Là encore, les hôtels dont on a parlé un temps, ces lieux où on aurait pu installer des malades, disait le conseil scientifique, n'ont pas l'air d'être en activité. Or, seul un isolement strict des porteurs du virus peut stopper sa propagation.
Tara Schlegel, la progression de l'épidémie appelle donc un nouveau durcissement des mesures sanitaires. Alors s'agira-t-il d'un couvre-feu élargi, d'un reconfinement partiel ou total, limité au week-end ou permanent, local ou généralisé? Les hypothèses vont bon train. Et les élus locaux font savoir qu'ils aimeraient être plus associés au processus de décision qu'ils ne le sont aujourd'hui, Stéphane Robert.
Oui, le président de l'Association des régions de France, Jean Rottner, a semble-t-il été entendu. Nous allons vers un reconfinement, affirmait-il ce matin à nos confrères de France Info. Et si c'est bien le cas, il faut que le gouvernement en discute au plus vite avec les élus des collectivités territoriales. Depuis, tout s'est accéléré. Nous avons appris cet après-midi que plusieurs pistes seraient à l'étude pour durcir les mesures sanitaires. Il y a quelques minutes, l'exécutif annonçait qu'un premier conseil de défense, vous l'avez dit, sur l'épidémie se tiendra demain matin à l'Élysée. À la suite de quoi, le Premier ministre Jean Castex recevra les chefs de partis politiques, les présidents de groupes parlementaires et les représentants des principales associations d'élus, et donc, entre autres, Jean Rottner. Puis un nouveau conseil de défense se réunira à l'Élysée mercredi matin, sans doute, pour formaliser un certain nombre de décisions. Il faut cette fois que les élus locaux soient pleinement associés, estime Philippe Laurent, le secrétaire général de l'Association des maires de France, et qu'ils soient tenus au courant au plus vite de la mise en œuvre des décisions prises.
La difficulté, c'est qu'il y a trop de délais. Par exemple, ça a été le cas par l'annonce par le président de la République du couvre-feu. Derrière, le Premier ministre s'est exprimé sur les détails de mise en œuvre plus d'une journée après, et les préfets ont pris langue ensuite avec les maires après l'intervention du Premier ministre. Nous pensons qu'il faut inverser ce calendrier, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit prêt entre nous, si vous voulez, avant les annonces officielles, pour que derrière ça se décline très rapidement. Plus ça va vite, moins ça laisse de prise à la contestation, à cette espèce d'incertitude qui règne, et mieux c'est pour l'efficacité des mesures.
Parce que là, vous avez été assailli de questions à ce moment-là, après l'annonce du couvre-feu?
Ah bah oui, bien sûr. Dès le soir même de l'annonce par le président de la République, il y a un nombre de mails qui est inimaginable qui sont arrivés en demandant à M. le maire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on annule notre manifestation de demain, etc. Alors que l'arrêté du préfet n'est intervenu que le samedi, alors même que l'intervention du président avait lieu le mercredi soir.
Alors, va-t-on vers une extension du couvre-feu, on parle de l'abaisser à 19h, ou bien vers des reconfinements partiels ou territorialisés? C'est ce qui sera vraisemblablement discuté dans les heures et les jours qui viennent. Nous ferons tout pour éviter un reconfinement général, nous expliquait un ministre ce matin, car ce serait économiquement désastreux. Il avoue ici ne pas complètement écarter cette hypothèse.
Stéphane Robert. Les partenaires sociaux étaient réunis aujourd'hui à Matignon pour une nouvelle conférence du dialogue social. La réunion devait permettre de faire un point d'étape sur les premiers chantiers lancés au ministère du Travail, notamment le suivi du plan jeune, les reconversions professionnelles ou les métiers en tension. Mais la principale annonce, Annabelle Grelier, a été le nouveau report de la réforme assurance chômage.
Encore un nouveau délai, mais toujours pas d'abandon de la réforme. Pourtant, tous les partenaires sociaux le réclament. Cette réforme, conçue à un moment de baisse du chômage et de difficultés de recrutement, ne correspond de toute évidence plus à la situation actuelle. Elle est même complètement inadaptée à la période pour la CFTC. Et c'est à peine s'il est besoin d'en faire la démonstration, estime la CFDT. Pour le syndicat des cadres, cette réforme, si elle devait s'appliquer, se révélerait même punitive. Comment pourrait-on imaginer renier les droits des chômeurs dans un tel moment de crise? Et même le patronat n'est pas prêt d'accepter un bonus-malus sur des contrats courts au moment où il s'agit surtout de ne pas licencier. Bref, l'exercice devient difficile pour l'exécutif. Ne pas donner l'impression de renoncer à réformer le pays sans avoir aucune visibilité toutefois pour le faire, contraint donc de gagner du temps de report en report.
Annabelle Grelier. Troisième tentative de mettre fin au combat et troisième échec au Haut-Karabakh. L'armée azerbaïdjanaise et les forces arméniennes se rejettent la responsabilité de cette nouvelle violation du cessez-le-feu négocié à Washington. Vieux de 30 ans, le conflit s'est soudainement dégradé il y a un peu plus d'un mois. Avec moins de 5000 membres en France, la communauté azerbaïdjanaise est toute petite comparée aux Arméniens, qui sont 600 000 environ. Leur point de vue est aussi moins médiatisé, mais eux se réjouissent de l'avancée des troupes de leur pays, notamment Yoram Melloul, ceux qui sont originaires du Haut-Karabakh.
Masque noir et lunettes rondes, la voix empreinte d'émotion quand elle parle de sa région natale. Gunel Safarova est présidente de l'association Dialogue France-Azerbaïdjan.
Je suis d'origine du Karabakh. Je suis née à Latchin et j'ai grandi à Zangilan.
Elle avait 5 ans à la fin des années 80 quand elle quitte le Karabakh, juste avant la guerre et l'expulsion de presque 1 million d'Azerbaïdjanais. Il y a peu, elle a appris que les troupes de son pays étaient entrées dans la ville où elle a grandi.
Pour nous, c'était déjà l'affaire classée. On a dit on ne va jamais retourner, c'est bon, l'espoir elle était mort. Et là, on a l'espoir. On a l'espoir qu'on va retourner sur nos terres.
Et pour sa famille à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, c'est pareil.
Ma grand-mère, elle a 90 ans. Elle a gardé les clés de sa maison. Tout dernièrement, quand je lui ai parlé, elle a dit « Je pense que je vais tenir. Il faut absolument que je voie Latchin. » Mon père, il dit « Maintenant, si je peux mourir, je peux mourir tranquillement. Parce qu'on a récupéré nos terres. Et vous pouvez m'enterrer à Zangilan. »
La guerre n'est pas encore terminée, mais déjà, elle imagine revenir.
Certainement, j'aurai en fait ma maison secondaire là-bas. Déjà, mon père, il va retourner là-bas. On est en train de rêver, mais je pense que j'attends le retour vraiment.
Elle en est persuadée, le retour des Azerbaïdjanais au Karabakh se fera en paix avec les Arméniens, même si depuis un mois, ce sont les armes qui parlent.
Portrait signé Yoram Melul. Le nouveau premier ministre japonais a de grandes ambitions. Yoshihide Suga fixe à 2050 l'objectif de neutralité carbone pour son pays, s'alignant ainsi sur l'Union européenne. C'est 10 ans de mieux que la Chine qui vise 2060. Mais l'équation de mise en œuvre ne sera pas simple pour un pays très majoritairement dépendant des énergies fossiles importées. Karine Nishimura.
L'écologie est souvent la grande absente des débats politiques au Japon. Alors que le Premier ministre Yoshihide Suga l'aborde ce lundi en bonne place dans son tout premier discours de politique générale est une bonne nouvelle.
Je déclare ici que notre pays vise la réalisation d'une société sans carbone d'ici à 2050.
Selon lui, la clé, c'est l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables et du recyclage du carbone.
Nous garantirons un approvisionnement énergétique stable en utilisant au maximum les énergies renouvelables. Et grâce au nucléaire, en donnant la priorité à la sécurité. Nous changerons radicalement la politique de production d'électricité par le charbon que nous poursuivons depuis de nombreuses années.
Selon l'organisation écologiste Greenpeace, il va falloir abandonner les projets de construction de centrales au charbon qui garantissent actuellement 30% de l'électricité nationale et ne plus exporter ces technologies. Une révolution est aussi nécessaire dans les importantes industries lourdes et les très nombreuses petites entreprises. Les propos du Premier ministre laissent cependant supposer que la part du nucléaire va augmenter alors que tous les plans ont été retardés ou anéantis par l'accident de Fukushima en 2011.
Karine Nishimura à Tokyo. À Pékin, le comité central du Parti communiste est réuni en plénum jusqu'au 29 octobre, sous la direction de Xi Jinping. Il établit la nouvelle feuille de route de la Chine pour les 5 ans à venir dans un contexte mondial tendu par la pandémie et par l'affrontement idéologique entre la Chine et l'Occident. Ce 14e plan quinquennal a une priorité: rendre la Chine autonome et autosuffisante sur le plan technologique et relancer la croissance économique qui s'est effondrée. Le cap est donc mis sur l'innovation dans le numérique, la 5G et les hautes technologies. Et justement, Dominique André, le géant chinois de l'Internet, Baidu, teste actuellement ses taxis autonomes dans la ville de Pékin.
Bienvenue dans le taxi. Avez-vous fermé la porte et attaché la ceinture? Maintenant, appuyez sur l'écran pour démarrer votre voyage en voiture autonome. C'est une voie robotisée qui donne les consignes, mais vous n'êtes pas seul, pas encore à bord d'Apollo Robot Taxi. S'il y a un problème, je vais intervenir manuellement, dit le chauffeur en chair et en os, installé derrière le volant qu'il ne touche pas. Baidu est le premier à lancer le taxi autonome à Pékin. C'est un concentré de haute technologie, explique Robin Li, le PDG du géant technologique chinois.
Le taxi autonome ne peut pas fonctionner sans la 5G. Il y a une masse d'informations qui doit être transférée à temps. En ce moment, on fait des essais. On voit qu'il y a un chauffeur dans la voiture pour assurer la sécurité et intervenir manuellement si besoin. Grâce à la 5G, un seul chauffeur suffira pour contrôler à distance une dizaine, voire peut-être encore plus de voitures.
50 km heure, c'est la vitesse moyenne du taxi autonome qui ne dépasse pas les 60. Pour le moment, les clients sont surtout des curieux. Le voyage est gratuit. Pas question de circuler encore dans le centre-ville.
Dominique André à Pékin pour France Culture. La météo, la journée de mardi s'annonce maussade sur la plupart des régions. Une nouvelle perturbation pluvieuse va traverser le pays. Le soleil résistera tout de même en bord de Méditerranée. Les températures minimales s'échelonneront entre 5 et 10 degrés. L'après-midi, il fera 10 à 15 degrés en général, 15 à 19 de la Bretagne à l'Aquitaine, sur le sud de l'Occitanie et sur le pourtour méditerranéen. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.